entreprise un petit peu spéciale, étant donné que nous fabriquons de la reproduction de meubles anciens, principalement du XVIIe et du XVIIIe siècle, et que nous essayons de les reproduire de la façon la plus fidèle possible. Donc, par conséquent, pour nous, le point de vue de l'industrie, c'est-à-dire de la série, de la chaîne, des machines, est un point très secondaire. Nous disons d'abord, il faut que l'objet soit fait d'une certaine façon pour être bien, et ensuite, éventuellement et seulement, quelles sont les améliorations que peuvent nous apporter la machine. Alors que tous mes confrères industriels, dans toutes les branches, pratiquement, essayent au contraire d'avoir le rendement maximum. Donc, si vous voulez, nous sommes d'une industrie très, très, très spéciale, comme il en existe encore en Europe, d'ailleurs, puisqu'il en existe même en Angleterre. Et quelques-unes, comme il en existe en France, quelques-unes, comme il en existe en Italie, enfin dans tous ces pays. C'est pour cela, si vous voulez, que, évidemment, nos problèmes seront très différents de ceux que vous aurez pu rencontrer, disons, dans des industries plus traditionnelles que la nôtre. Nous sommes au fond des artisans qui ont grandi, mais enfin, nous sommes beaucoup plus des artisans que des industriels, en fait. Nous sommes des manufacturiers, comme on disait autrefois.
Il y a longtemps que l'affaire est établie ici.
Oui, l'affaire a toujours existé à Orléans. Elle a été créée à Orléans aux environs, un peu avant la guerre de 1914. Et elle s'est développée principalement après la guerre de 1914, entre les deux guerres, et donc a toujours existé sur place.
C'est une entreprise familiale.
Oui et non, c'est-à-dire, l'entreprise a été créée par un monsieur qui s'appelle Maillefer, qui s'appelait car il est mort, qu'il l'a créé donc vers 1910 environ. Elle était devenue une société et qui a été dissoute au moment de la crise de 1930 et qui à ce moment-là a été rachetée par mon père qui avait lui-même une affaire à Paris. Alors c'est depuis donc une affaire qui est dans ma famille, qui est sous forme de société comme beaucoup d'affaires françaises, mais enfin qui est une affaire familiale puisque la famille possède la totalité des actions d'affaires.
Est-ce que Orléans vous paraît particulièrement satisfaisant comme emplacement du...
Pour être très franc, le choix d'Orléans est tout à fait l'effet d'un hasard. Le hasard était que le fondateur de l'affaire était orléanais, et qu'il a fait son affaire à Orléans, qu'elle aurait pu tout aussi bien être dans une autre ville. Il n'y avait d'ailleurs aucune tradition du meuble à Orléans. Il y a toujours eu de petites affaires de meubles, mais enfin, le meuble, comme nous le faisons, était essentiellement fabriqué à l'époque à Paris. Mais le choix d'Orléans, qui donc n'est pas du tout un choix volontaire, mais un choix de hasard, s'est révélé particulièrement heureux du fait que nous sommes proches de Paris, dont nous avons un certain nombre d'avantages sans en avoir les inconvénients, qu'il a été possible de faire venir une partie de notre encadrement de Paris, et qu'également les clients viennent nous voir maintenant très facilement de Paris, puisque nous en sommes situés à 1 heure. Donc ce hasard s'est révélé un très bon choix, et maintenant nous ne changerions pas.
C'est un très bel hôtel ici.
C'est une très vieille maison qui est une des plus anciennes d'Orléans. Et elle a été bâtie sur l'emplacement des anciennes fortifications détruites à la fin du XVe. Elle date donc de 1540, de l'époque de François Ier. Je suppose, enfin nous sommes beaucoup à supposer, que si vous voulez, que la maison devait servir au roi lorsqu'il venait à Orléans, ce qui était très fréquent à l'époque, sur la route des châteaux de la Loire. Pourquoi ? Nous en avons un certain nombre de preuves, notamment le fait que vous trouvez sur la porte là-bas et une autre porte que vous ne voyez pas d'ici, la salamandre qui est l'emblème de François Ier, et que dans certaines pièces que je vous montrerai, les plafonds sont sculptés à fleurs de lys et à dauphins. Or, le roi ne donnait pas le droit de mettre ses armes sur une maison qui ne lui appartenait pas, ou au moins qui lui était destinée. Puis là, il y a des détails architecturaux, si vous voulez, qui seraient peut-être trop longs d'expliquer, mais qui montrent que c'était vraiment plus une maison de campagne, je dirais, qu'une résidence permanente, le fait notamment que les deux corps de bâtiment aient été reliés à l'époque par une double galerie ouverte, ce qui est un système tout à fait irrationnel. C'est ce que nous supposons, et nous avons eu la chance, évidemment, que cette maison n'ait pas souffert d'aucune des guerres, et elle a été un petit peu modifiée par rapport à ce qu'elle était à l'époque, notamment à l'extérieur et à l'intérieur, mais enfin, la cour est presque dans son état d'origine.
que vous fabriquez des meubles anciens à partir de quel matériel?
Nous fabriquons de la reproduction de meubles anciens, ce qui s'appelle dans notre métier le meuble de style. C'est la différence entre le meuble de style qui est une copie du meuble ancien et le meuble ancien. Et pour fabriquer ces meubles, il faut un certain nombre de choses. Il faut d'abord avoir des documents anciens, documents que nous nous procurons soit dans les musées, soit dans nos collections personnelles, soit sur des documents photographiques. Ensuite, il faut avoir les matières premières pour les fabriquer, notamment les bois, qui viennent soit qui sont des bois de pays tels que le chêne, le merisier ou le noyer, soit des bois exotiques, acajou, qui venaient autrefois d'Amérique centrale et notamment de Cuba, et qui maintenant ne vient plus de Cuba car il n'y en a plus, ou bois de plaquage de marqueterie, c'est-à-dire essentiellement bois de rose et bois de violette. Ah oui, et ensuite on en était plus loin que ça, on avait parlé des matières premières, et on avait parlé notamment de l'acajou de Cuba, c'est cela. Attends, je reprends mes esprits. Oui, et donc les derniers bois sont les bois de plaquage, du Brésil. Ces bois de plaquage, les deux plus connus sont ce que nous appelons le bois de rose et le bois de violette. Nom assez curieux d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la fleur, c'est simplement la couleur, l'un est plus rose et l'autre est plus violet. Alors, enfin, d'autres matières premières, bien sûr, très diverses, en dehors des bois, je ne vous en ferai pas toute la nomenclature car elle serait fort longue et très inintéressante, tout à fait fastidieuse. Enfin, la dernière chose, je dirais la plus importante, il faut trouver des ouvriers. Des ouvriers, d'ailleurs, dans notre métier, nous employons plutôt le mot de compagnon. Nous avons conservé les traditions des corporations d'autrefois et nous préférons le mot de compagnon qui signifie que la personne a fait un apprentissage et a une qualification, que le mot d'ouvrier qui implique plutôt le fait d'un monsieur qui travaille devant une machine sans grande qualification. Alors c'est évidemment la personne la plus importante, je dirais, de notre entreprise.
Oui. Est-ce que vous trouvez difficile maintenant d'avoir des artistes, je préfère en dire, qui ont une formation suffisante?
Il est très difficile, presque impossible, de trouver ces personnes, car effectivement, le métier se perd. La plupart des usines de meubles, maintenant, se sont mécanisées, travaillent essentiellement avec des machines, et les ouvriers qualifiés, les compagnons dont je vous parlais, n'ont pas disparu, mais sont tout de même très rares, et surtout à Orléans, nous sommes la seule entreprise d'une certaine taille. Donc, comme nous n'en trouvions plus, il a fallu les former. Alors nous avons une formation sur place, c'est-à-dire que nous formons nous-mêmes nos apprentis, oui. Pour la plupart. J'ai toujours une vingtaine d'apprentis, 15 à 20 apprentis en cours de formation.
Oui. Vous avez donc combien de personnes travaillent chez vous?
En tout, nous sommes environ 170 à 180. Alors tout le monde compris, c'est-à-dire y compris les bureaux et tout le personnel de l'annexe.
Qu'est-ce que vous demandez chez vos apprentis? Est-ce qu'ils se présentent assez nombreux?
À l'heure actuelle, oui, nous avons pas mal de demandes. Je crois d'abord parce qu'il y a eu plus d'enfants dans les années passées, c'est-à-dire que nous étions dans les classes pleines, d'une part. D'autre part, parce que le métier est considéré comme intéressant et plus plaisant. Ça n'est pas un métier d'usine, si vous voulez. C'est un métier à caractère plus artisanal, donc plus intéressant. Alors, ensuite, il y a tout de même certaines traditions familiales. Nous avons souvent les fils de leur père ou des gens qui sont dans des professions annexes et qui viennent nous voir par recommandation et que nous prenons de cette façon. Mais il y a aussi des gens qui viennent de tous les horizons. Alors, l'apprenti doit faire un apprentissage. Je vous parle de la méthode classique qui est en train de changer, qui dure généralement 3 ans, qui est sanctionné par un examen qui est le certificat d'aptitude professionnelle ou CAP, à l'issue de laquelle il devient jeune ouvrier, jeune compagnon, et il continue à se perfectionner d'ailleurs, parce que ça n'est pas au bout de 3 ans qu'il connaît tout son métier, d'ailleurs il ne le connaît jamais entièrement, et on peut tout toujours se perfectionner dans ce métier, c'est ce qu'il y a d'ailleurs, c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Mais enfin, on peut admettre qu'un ouvrier, selon les spécialités, a besoin de 5 à 7 ans pour vraiment bien connaître son affaire. Dans certains métiers, presque 10 ans. Près de la sculpture, par exemple.
Est-ce que vous prenez déjà des gens qui ont fait des études de beaux-arts en sculpture?
Non. Non, d'ailleurs, les beaux-arts, évidemment, il ne s'agit pas de l'école des beaux-arts à Paris qui ne forme pas des gens à notre niveau, mais les écoles techniques françaises dans le métier du bois ne peuvent malheureusement pas nous fournir d'ouvriers. L'école la plus connue est l'école Boulle à Paris, mais qui forme surtout des cadres, qui autrefois devait former des ouvriers, mais qui maintenant dans la pratique ne forme que des cadres. Quant à l'école des beaux-arts locale, que je connais bien puisque c'est un de mes cadres qui également s'occupe du parti du dessin, elle n'est pas fondamentalement tournée vers, justement, vers nos professions et pour former que ce soit des sculpteurs, des ébénistes. C'est un petit peu d'ailleurs ce que nous, industriels, nous reprochons, je dirais, à l'enseignement même technique des beaux-arts, c'est de ne jamais penser aux débouchés. Les professeurs, ce n'est pas une critique, c'est une constatation, voient surtout le problème de la culture, culture générale d'abord et, disons, culture artistique ensuite, alors que nous cherchons à trouver des gens qui sont le plus rapidement possible utilisables pour nous. Et donc, c'est presque un petit peu de divorce qu'il y a entre l'enseignement et ensuite la vie professionnelle.
D'accord. Comment est-ce que les salaires sont fixés?
Les salaires sont fixés de plusieurs façons, si vous voulez. D'une part, il s'agit bien sûr de la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire du niveau général des salaires de la ville et de la profession. Je ne peux pas payer durablement moins cher que mes confrères, ou beaucoup plus cher, moins cher parce que tous mes ouvriers partiraient, et beaucoup plus cher parce qu'ils partiraient de chez vous, de tous mes confrères pour venir chez moi, donc il s'établit un espèce d'équilibre. Ensuite de cela, ils s'établissent par discussion ou entente à l'intérieur de l'entreprise. Nous avons des délégués du personnel, nous avons un comité d'entreprise, et d'une façon générale, nous nous mettons d'accord sur un niveau général de salaire, ce qui n'empêche pas que nous ayons des discussions d'ailleurs de temps en temps. Enfin, la profession, pour les salaires, est moins importante pour nous que dans certaines autres, car elle fixe surtout des minima. Elle a défini les ouvriers en catégories, et elle fixe des minima par catégorie. Inutile de dire que nous sommes très au-dessus de ces minima, que par conséquent, sur le plan des salaires, la profession a une influence faible, pour ne pas dire nulle.
Je pense que c'est vrai que vous faites étant tellement spécialisé, vous n'entrez pas vraiment dans le cadre de la planification. C'est un peu en dehors de tout cela.
Quoique bien sûr, nous ayons tout de même des rapports avec l'industrie, mais en fait, nous sommes avant tout des artisans. Nous sommes des artisans qui ont grandi, puisque nous sommes, comme je vous ai dit, presque 200, mais nos méthodes, notre état d'esprit est resté celui des artisans. Nous n'avons pas du tout les mêmes problèmes que les autres, au point de vue ni de nos méthodes de fabrication, ni de nos méthodes de travail par conséquent. L'apport personnel est plus important chez nous que le travail d'équipe. Mais tout de même, nous essayons d'introduire, à côté de ce côté artistique, certaines considérations peut-être un peu plus modernes et un peu plus scientifiques. Études de marché, par exemple, savoir si notre industrie, quoique traditionnelle, va pouvoir demeurer dans les années à venir. Études également des débouchés, c'est-à-dire des marchés que peut nous offrir la France et les pays étrangers avec lesquels nous travaillons, ce qui dépend beaucoup des résultats de l'économie générale. Pour parler plus précisément, nous sommes une industrie fabriquant des biens de consommation semi-durable, de luxe. Il est absolument certain qu'un changement, une modification profonde dans la structure des revenus, d'un pays, de la France bien sûr, qui est notre plus gros marché, mais d'un pays étranger, peut complètement changer les ventes que nous pouvons faire sur ce marché. Si je prends par exemple l'exemple anglais, je le prends d'ailleurs d'une façon tout à fait, je dirais, dégagée, puisque les Français n'ont jamais été capables de vendre des meubles en Angleterre. Je ne sais pas pourquoi. Alors que l'influence, le meuble anglais s'est toujours beaucoup vendu en France, le meuble français ne se vend pas en Angleterre. Mais ceci étant dit, il est absolument certain que la politique de revenus actuellement pratiquée en Angleterre interdit la vente des objets de luxe comme les nôtres. Ce n'est pas non plus une critique, c'est simplement une constatation. En d'autres termes, l'égalisation des revenus, qui est d'ailleurs peut-être souhaitable à d'autres égards, signifie évidemment plus ou moins la fin de toute industrie de luxe, la nôtre et d'autres. Le cas, par exemple, de l'Amérique du Sud, où des droits d'importation absolument prohibitifs ont complètement arrêté un marché qui, avant la guerre de 1939, était très prospère, par exemple. Voyez-vous comme quoi nous sommes donc obligés de tenir compte de ces facteurs.
C'est intéressant. Je pensais que les gens de l'Amérique du Sud qui étaient payés, étaient assez bien payés. Je veux dire qu'il y a là une très forte différence entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus bas.
C'est exact.
Et que les gens dans les niveaux supérieurs vraiment pouvaient se permettre beaucoup.
Vous avez tout à fait raison, mais si vous voulez, ce ne sont pas tellement les revenus au niveau le plus haut qui nous intéressent. Les milliardaires, pour parler dans un terme un peu facile, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, ont tout ce qu'il leur faut. Ils peuvent acheter des meubles anciens, donc pourquoi achèterait-il de la copie même bien faite ? Leur nombre est tout de même limité, ils constituent donc un marché relativement faible. Ce qui est intéressant pour nous comme clientèle, c'est la catégorie au-dessous, je dirais, c'est-à-dire l'industriel moyen, le commerçant prospère, les professions libérales, médecins, avocats, etc. Donc toute cette classe, si vous voulez, de revenus qui est assez difficile de fixer, mais qui n'est pas monsieur Onassis, si vous voulez, mais qui n'est pas non plus monsieur Durand, ouvrier qualifié ou même ingénieur débutant. Mais c'est cela qui, dans des pays comme la France, par exemple, constitue l'essentiel de notre clientèle. Il est un fait que si vous limitez le revenu de ces gens-là par le jeu de la surtaxe progressive, comme par exemple c'est le cas en Suède, où nous sommes en train de perdre notre marché, puisque pratiquement il devient impossible de gagner plus de 3500 ou 4000 francs par mois. Alors, on ne peut plus acheter de meubles. C'est pour cela que le grand luxe disparaît de plus en plus. Il y en a tout de même moins, et puis ils ont tout ce qu'il leur faut.
J'imagine,
ils n'ont pas besoin de moi.
Aux États-Unis, les États-Unis peuvent vous offrir un débouché assez intéressant.
Les États-Unis devraient nous offrir un débouché extrêmement intéressant. C'est le marché que je connais le mieux, sans le connaître parfaitement, puisque j'ai fait deux séjours aux États-Unis, dont l'un assez long de 18 mois. Et j'y étais encore un mois l'année dernière. Ce devrait être le meilleur débouché que nous avons, et c'est un débouché extrêmement, décevant et difficile. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y a tout. On n'attend personne. Qu'il est impossible de prendre ce marché avec des moyens artisanaux. Il faudrait, pour s'imposer aux États-Unis, pouvoir investir des sommes considérables sur le plan commercial, sur le plan publicitaire, pour pouvoir nous lancer. Mais ceci est évidemment contraire à la définition même de notre métier, qui, pour rester bien fait, doit rester artisanal. De plus, nous sommes extraordinairement gênés par le phénomène de la commercialisation de nos produits aux États-Unis. Si vous voulez, aux États-Unis, il y a un intermédiaire de plus qu'en France ou généralement en Europe. C'est-à-dire qu'il y a, pour simplifier très grossièrement, d'abord des frais d'approche, c'est-à-dire de douane et de transport très importants. Ensuite, il y a un premier intermédiaire qui est un grossiste. Il y a un deuxième intermédiaire qui est le décorateur. Tout client américain qui achètera du meuble de luxe ne le fera que par l'intermédiaire d'un décorateur. Ceci veut dire dans la pratique qu'un meuble qui est vendu 100 francs en France sera revendu 500 francs aux clients particuliers aux États-Unis. Donc, ces grossistes sont avant tout des hommes d'affaires. Ils essayent d'acheter des marchandises le moins cher possible et soit les font fabriquer sur place, soit les achètent chez ceux qui sont nos concurrents dans le domaine du meuble français, c'est-à-dire surtout l'Italie et maintenant l'Espagne et le Portugal. La qualité est inférieure, le prix également, d'une part parce que la qualité est moins bonne et d'autre part parce que les salaires, notamment espagnols et portugais, sont très inférieurs aux nôtres. Si bien qu'aux États-Unis, je dirais que plus le meuble est cher, moins la qualité est bonne. Ce qui est très curieux. J'ai été à New York et je crois avoir vu en meuble français à peu près tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a d'existant, et je peux dire que je n'en ai pas trouvé, en dehors de ceux qui sont chez quelques antiquaires, je n'ai pas trouvé un meuble français convenable. Et puis alors également, les Américains sont tout de même beaucoup plus proches des Anglais que nous. Ils comprennent, ou ils croient comprendre, beaucoup plus le style anglais que le style français, si vous voulez. Tout Américain aime bien dire qu'il a des ancêtres anglo-saxons. Donc, comme il n'a pas de meubles de famille, eh bien, mon Dieu, il s'en crée. Et il en fabrique aux États-Unis, d'ailleurs, qui ne sont souvent pas mauvais. Soit la production de meubles anglais, soit la production de ces meubles américains. Par exemple, le style de Williamsburg, c'est-à-dire le style qui a été, évidemment, qui est directement dérivé de l'anglais. Ou alors, il achète des meubles en Angleterre. Et là, la qualité n'est pas mauvaise du tout. Il n'y a que les Anglais qui font du meuble anglais, c'est l'avantage. Tandis que nous, le meuble français se copie malheureusement un peu trop dans le monde. C'est pour ça que le meilleur marché que nous avons à l'heure actuelle est le marché suisse, encore que ce soit un marché en diminution. Pourquoi ? Parce que la Suisse a été pendant des années un refuge de capitaux et surtout de personnes, je dirais, un peu déplacées à la suite des ennuis qu'il y a eu en Europe et qui se sont établis en Suisse. L'Allemagne, qui était un très bon marché entre 1920 et 1930, si vous voulez, c'est-à-dire avant Hitler, redevient un marché d'une certaine importance, qui n'est pas ce qu'elle était avant la guerre, mais enfin qui redevient intéressant, qui, je crois, sera dans l'avenir peut-être le meilleur marché. À part cela, nous vendons en Belgique, en Hollande, un peu en Suède. Et puis alors, accessoirement, par hasard, nous faisons une affaire dans l'un ou dans l'autre pays. Il arrive que nous fassions tout de même une affaire en Angleterre. Nous vendons au Canada. Nous vendons donc tout de même aux États-Unis. Et puis, il m'est même arrivé de vendre des meubles au Japon. Comme quoi, on ne peut pas, même en Italie, qui nous copie pour tout.
Vous avez parlé d'études de marché. Est-ce que vous faites beaucoup de publicité ? Comment avez-vous ?
Je ne fais absolument pas publicité, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai eu la chance qu'un livre ait été écrit sur notre maison, voici 40 ans environ, et que ce livre était tellement bien fait et tellement drôle, je le dis d'autant plus franchement que je ne l'ai pas écrit, ce livre a été écrit par le fondateur de la maison, M. Maillefer, quand il s'est retiré, et ce livre a été tellement amusant qu'il est toujours réédité à l'heure actuelle et que c'est ma meilleure publicité, et qu'en plus elle est gratuite.
Elle est gratuite ?
Bien sûr, puisque ce livre est vendu par un libraire.
Évidemment, bien sûr.
Donc pour moi, tous les gens ont lu ce livre, et c'est un livre qui a tout de même tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires.
Les éditeurs ?
L'éditeur est en Flammarion.
Oui.
Alors, la deuxième raison, donc, ce livre me sert, ce que j'ai dit est donc un peu hypocrite, si j'ose dire, puisque en fait j'ai une publicité merveilleuse et gratuite. Et ensuite de cela, je ne veux pas faire d'autres publicités, parce qu'elle ne serait peut-être pas rentable, et il est bon que lorsque les gens viennent chez moi, ils aient l'impression qu'ils ont un peu découvert un secret, l'adresse de quelqu'un que personne ne connaît. Alors, si vous voulez, cette publicité que j'ai d'un côté et cet aspect secret, confidence de l'autre, est pour nous d'un gros intérêt. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas de publicité classique. Nous en faisons d'autres.
Oui. Et vous arrivez à être mentionné sans doute dans les magazines de luxe ?
Eh bien, nous sommes mentionnés dans les journaux français et étrangers. Nous sommes même passés à la télévision sur la chaîne nationale, une émission sur notre entreprise qui a duré une dizaine de minutes et qui a fait d'ailleurs beaucoup de bruit parce que certains antiquaires n'ont pas du tout été contents de la publicité, disons, qui avait été fait autour de notre maison, ce qui a valu pas mal de lettres de protestation, pas mal d'articles dans les journaux, et j'ai vu beaucoup de journalistes, puisque ce jour, je crois en être à ma 12e ou 15e interview journalistique, enfin, la vôtre n'étant pas prise sur ce plan-là, bien sûr, et la dernière en date, la dernière interview que j'ai donnée, des choses à lire pour un journal anglais, d'ailleurs, et un journal financier, puisque le Financial Times du 27 janvier 1970, ça n'est donc pas vieux. D'ailleurs, je vous en donne un numéro, et vous trouverez à l'intérieur l'interview qui a été faite sur la maison.
Merci beaucoup.
Et nous devons repasser, nous avons une chaîne régionale de télévision, et nous devons passer la semaine prochaine, d'ailleurs, à la télévision de nouveau, mais alors cette fois-ci sur le plan régional. Oui.
Est-ce qu'il vous arrive quelquefois que vos copies sont vendues par des gens peu honnêtes comme des meubles d'époque?
Bon, alors il y a au fond deux questions dans ce que vous me dites. Premièrement, vos meubles qui sont des copies peuvent-ils être vendus comme anciens? Et deuxièmement, s'ils sont vendus comme anciens, le sont-ils par des gens qui sont de bonne foi ou éventuellement par des gens qui veulent tromper les clients? En fait, oui, un certain nombre de nos meubles ont été revendus comme anciens. Nous les trouvons dans les ventes, nous les trouvons parfois chez des particuliers, et surtout des meubles qui ont été fabriqués chez nous depuis 30, 40 ans, ou même moins, qui évidemment ont acquis, en plus du vieillissement que nous leur donnons, un vieillissement naturel et qui n'a fait que les améliorer. Donc ça, c'est une chose. Quelle en est la proportion, je ne la sais pas, car bien sûr, j'ignore. De temps en temps, nous repérons dans une vente publique ou par hasard chez un client un meuble de chez nous présenté comme ancien, mais enfin, nous ne le savons pas toujours. Dans quelle mesure, maintenant, ces meubles sont-ils revendus de bonne foi ou sont-ils revendus de mauvaise foi? Je crois qu'il faut être un peu moins absolu que ça. Disons qu'entre le noir et le blanc, il y a le gris. Des gens de parfaitement bonne foi, il y en a d'ailleurs, il y en a qui croient avoir, j'ai vu le cas l'autre jour, de personnes dont les parents avaient acheté nos meubles ici et qui croyaient de toute bonne foi, c'était, ils venaient d'un héritage, que ces meubles avaient toujours été dans leur famille et c'était de parfaitement bonne foi en les revendant dans une salle des ventes. Bon, il y a le cas inverse d'une personne qui vient ici pour revendre nos meubles comme anciens. Il y en a peu, je dois le dire. Est-ce parce que la plupart des gens sont honnêtes, c'est l'explication optimiste, et je le souhaite? Est-ce parce que c'est tout de même un sport qui présente un certain danger? Je ne le sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, j'ai une personne dont je sais qu'elle nous achète des meubles que pour les revendre à l'étranger comme anciens. Mais enfin, en tous les cas, ça reste l'exception. Alors il y a maintenant le cas qui est peut-être le plus amusant et le plus fréquent d'ailleurs, de ce que j'appellerais le doute raisonnable. C'est-à-dire des gens se disent, bon, on ne sait pas très bien si c'est ancien ou si ça ne l'est pas, alors on ne les garantit pas tout à fait, mais enfin on pense qu'ils sont tard d'époque. Mot merveilleux qui veut dire tout ce que l'on veut. Depuis ça n'a pas été fait hier matin jusqu'à ce ça a été fait 20 ans ou 50 ans après l'époque normale. Il y a un peu d'hypocrisie, je dirais, à ce stade-là.
Oui. Oui. Est-ce que vos clients sont surtout des particuliers ou surtout des intermédiaires?
Nos clients sont à peu près à 50% des revendeurs, négociants classiques, tapissiers ou décorateurs. Je parle en France. Environ 20% de notre clientèle est à l'étranger et sont pour la plupart des revendeurs également. Et enfin, le reste, c'est-à-dire un tiers, 30% environ, sont des particuliers français. Qui généralement sont soit à Paris, soit à Orléans bien sûr, mais soit à Paris, soit alors dans des villes où nous n'avons pas de clients revendeurs, de sorte qu'ils viennent nous voir directement.
Oui. Est-ce que vous employez toujours les méthodes employé à l'époque de la fabrication des meubles sous unité.
Oui, nous avons introduit bien sûr certaines méthodes modernes pour améliorer la production. Nous avons quelques machines. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions 170 personnes. Nous avons tout de même 8 personnes qui travaillent aux machines sur 170. Ça ne fait pas beaucoup. Par exemple, nous scions les bois à la scie, car s'il fallait scier les bois à la main, ça ne présenterait qu'un très faible intérêt au point de vue artistique, même un intérêt nul, mais cela prendrait des heures et des heures. Si vous voulez, le critère chez nous est le suivant. Nous employons la méthode ancienne chaque fois que l'emploi d'une méthode moderne conduirait à appauvrir, à diminuer la qualité du meuble. C'est évidemment assez difficile, parce que parfois, nous, on peut discuter en disant « oui, mais cela, ça ne se verrait pas ». Donc, parfois, nous employons la machine et ensuite, nous reprenons la main. Je pense, par exemple, dans certaines moulures, ce qu'on appelle, voyez-vous, une moulure, par exemple, c'est ceci, ou certaines sculptures simples, nous les ébauchons à la machine pour nous avancer, mais comme la machine ne peut pas avoir ce caractère de... artistique, si vous voulez, qu'à la main, je ne veux pas dire de perfection, car la machine est parfois plus parfaite que la main, mais le caractère artistique, alors nous reprenons le travail à la main. Donc certains travaux, les travaux simples, en général d'usinage simple, sont faits à la machine. Les travaux d'usinage un peu plus compliqués sont faits à la machine et repris à la main. Et enfin, tout le travail final de montage du meuble et surtout de finition, alors est entièrement fait à la main et selon les procédés d'autrefois.
Oui. Est-ce que je peux vous demander quelle est la quantité que vous produisez ?
Je l'ignore complètement. Ce que je peux vous dire, c'est que je dois avoir 5000 modèles différents. Je dis 5000, c'est peut-être 6000 ou 4500, j'en sais rien, quelques milliers en tous les cas. Ça doit tourner aux alentours de 5000, mais je me trompe peut-être de 2000. Donc, si vous voulez que la pièce, la meilleure marché de la maison doit valoir 150 francs, la pièce la plus chère, je ne sais pas, mais enfin, le meuble individuel peut valoir 20 ou 25 000 francs. Et nous pouvons faire même des ensembles de boiseries bibliothèques qui valent 100 000 francs. Donc, si vous voulez, pour moi, la notion de quantité de pièces vendues ne présente aucun intérêt. Je ne me suis jamais amusé à compter, je dois dire.
Vous faites surtout sur commande ou...
Faisons essentiellement sur commande.
Oui.
Et même si nous faisons quelques pièces à l'avance, elles sont toujours terminées selon les désirs du client, c'est-à-dire d'une part la teinte du bois, ensuite le degré de vieillissement que nous lui donnons, qui peut être, pour simplifier, léger, moyen ou très poussé, et puis alors certains détails, par exemple coloris du cuir et autres détails que le client nous demande pour lui personnellement.
Vous fabriquez peut-être plus de chaises que d'autres choses ?
Non, bien sûr, en quantité certainement. En quantité, nous devons fabriquer environ 3500 sièges à peu près, je dirais, par an, de différentes formes, chaises, fauteuils, bergères, lits, canapés, etc. Mais enfin, nous produisons également beaucoup de meubles qui sont soit des meubles en bois massif, merisier ou acajou. Vous savez que le merisier, c'est le cerisier, en fait, c'est le même bois. Théoriquement, le merisier et le cerisier sauvage. Dans la pratique, nous continuons à dire merisier dans le métier, mais bien souvent, nous employons le cerisier. D'ailleurs, il n'y a pas de différence, en fait. Meubles en acajou, donc massif, et puis alors, ensuite, les meubles en marqueterie, c'est-à-dire ce meuble que vous voyez ici, par exemple, qui est ce qu'on appelle une marqueterie de cube, et à cause de la forme, et qui est fait en trois types de bois différents, de façon à donner un relief. C'est-à-dire il y a du bois de rose, du bois de violette et du satiné. Ceci est un immeuble. Toutes les pièces que vous voyez dans la maison, à une ou deux exceptions près, sont nos meubles. Et dans la pièce ici, il n'y a que nos enfants. Oui. Et alors, en dehors des meubles, nous fabriquons également tous les objets en bois doré, c'est-à-dire miroir, baromètre, trumeau, applique, même des lustres quand ils sont en bois. Nous avons nos ateliers de sculpture, nos ateliers de dorure.
J'ai une petite question pour terminer qui ne s'applique probablement pas. Si je peux quand même vous demander. Enfin, je peux vous demander, est-ce que vous souhaitez agrandir ?
Un chef d'entreprise souhaite toujours agrandir son entreprise, je crois. Toutefois, pour nous, cela pose deux problèmes. Le premier problème est un problème de qualité. Si j'agrandis, pourrais-je conserver suffisamment de surveillance pour que la qualité de mon entreprise ne diminue pas? Je crois qu'il y a une taille au-delà de laquelle on ne peut plus aller si l'on veut veiller à la qualité de la fabrication. Et je crois que cette taille, à peu de choses près, nous l'avons atteinte. Certes, je pense même parfois que... Bon, ça, je ne le dis pas. Non, mais vous comprenez, parce que je ne suis pas... Au fond, je crois que c'est ce que j'allais dire était faux. Mais enfin, en tous les cas, je ne peux pas grandir perpétuellement. Ensuite se pose un problème financier. J'ai des installations qui sont anciennes. Comme vous comprenez que nous n'avons pas d'intérêt, au point de vue productivité, d'avoir des installations neuves, puisque pour nous, la productivité, je ne veux pas dire n'existe pas, mais enfin n'existe pas dans le sens d'une industrie moderne avec des machines neuves. Donc il faudrait que je fasse maintenant des investissements considérables pour avoir une usine plus grande, simplement pour une question de taille, que je ne trouverais pas à avoir en ville. Nous sommes des métiers essentiellement urbains. Il faudrait que j'aille à l'extérieur dans des zones industrielles, avec peut-être mes ouvriers qui ne me suivront pas. Et ces investissements me paraissent trop considérables pour que nous puissions les faire. Donc nous grandissons lentement, mais je pense que nous avons à peu près atteint maintenant un maximum. Ceci dit, si vous revenez voir dans quelques années, ça sera peut-être complètement faux, étant donné qu'il y a 15 ans, nous avions 50 personnes, et que nous pensions que nous étions à un bon stade et que nous sommes 180 aujourd'hui. Voyez-vous.
Est-ce que vous qualifiez cette entreprise de petite, moyenne ou grande?
Par rapport, bien sûr, à l'ensemble de l'industrie française, c'est une petite entreprise. Par rapport aux meubles en général, c'est déjà une moyenne entreprise qui est même à la limite des grandes, puisque à part 3 ou 4 entreprises en France qui ont plus de 500 personnes, toutes les autres ont bien sûr beaucoup moins. Donc déjà à 200 personnes, je dois être dans les 50 premières entreprises françaises d'ameublement. Si maintenant nous nous mettons dans notre spécialité, c'est-à-dire meubles de style, nous sommes dans premier, second, troisième, enfin je n'en sais rien, je n'ai jamais essayé exactement de savoir, mais enfin dans les premiers.
On parle beaucoup de la concentration des entreprises, mais je pense que c'est une notion qui s'applique pas à votre cas.
Absolument pas.
Eh bien, monsieur, je vous remercie infiniment de cette interview qui je n'ai plus de questions à vous poser parce que vous avez déjà parlé d'une manière si ouverte que vous avez devancé les questions que j'aurais pu avancer. Et je vais fermer.